Europe 1 Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement maintenant et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, nos invités, la comédienne Anna Girardot, la réalisatrice Anissa Bonnefond. On parle de ce film très très attendu, La Maison, adaptée du roman sulfureux d'Emma Baker. Vous verrez que le film n'est pas moins sulfureux. Bonjour Sébastien Bordonnave.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est Stéphanie Loire, j'y arrive.
C'est moi, bonjour.
Bonjour, c'est vous, je sais que c'est vous. Bonjour Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc, vous êtes là ?
Bonjour Philippe.
Je vous entends.
C'est bien le micro.
Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu tenir une promesse faite la semaine dernière.
Exactement Philippe. Je vous avais promis de regarder le deuxième et dernier épisode des Bilans de l'amour et dans le pré. Pour savoir quels agriculteurs avaient finalement réussi à niquer. Enfin non, à trouver l'amour. Et ça commençait très fort avec le couple phare de la saison, Jean et Laurence. Alors, je vous rappelle que Laurence, c'est cette prétendante qui avait eu la bonne idée de faire l'émission discrètement alors qu'elle était en arrêt maladie. Donc, en cumulant ADP, Amour et dans le pré, et CPAM, caisse primaire d'assurance maladie, ça devait marcher. Eh ben, vous n'êtes pas prêts.
Mais dis-moi, mon Jean, il n'y a pas Laurence ?
Ah non ?
C'est fini avec Laurence ?
Ah oui, il n'y a pas tellement longtemps. Ça fait environ 3 semaines.
Mince.
C'est tout l'effet que ça vous fait.
Ouais. Hein, j'y croyais, moi.
Mais oui, mais moi aussi, Jean et Laurence, je crois que vous vous rendez pas compte. Hein. Si eux, ça fonctionne pas, ça sert plus à rien de croire en l'amour. Rappelez-vous, ils avaient flashé lors de cette séance de karaoké mémorable.
Elle chante bien, je trouve.
Oui, l'amour rend aveugle, mais il peut aussi rendre sourd. Ils étaient faits l'un pour l'autre, je vous dis. Et même Nathalie, rappelez-vous, la rivale de Laurence avait dû s'incliner.
Elle est gibule, là. Elle a gagné. Elle est gibule.
Ça y est, ça vous revient ?
Ma préférée ever.
Alors, les émissions bilan, c'est toujours un peu particulier. Parce qu'on nous repasse les extraits, et après, ça enchaîne direct avec des interviews de Karine Lemarchand. Et parfois, les transitions sont un peu sévères. Là, on nous montrait la tension entre les deux prétendantes de Jean quand elles faisaient les courses.
Elle m'a dit qu'elle voulait faire une quiche Lorraine avec une pâte feuilletée. J'ai dit non, on fera une pâte brisée.
C'est ça qui a fait que tu as craqué sur Laurence plutôt que sur Nathalie.
Eh ben ça, je comprends. Hein. Moi, une meuf qui fait une quiche Lorraine avec une pâte feuilletée, c'est même pas la peine d'y penser. Je construis pas ma vie avec quelqu'un d'aussi irresponsable. On retrouvait aussi Alain, 73 ans, le cow-boy breton qui n'a pas de temps à perdre. Là, une de ses prétendantes se confie à lui dans un moment très émouvant.
Mon tatouage raconte toute mon histoire. Mes ancêtres, mon fils, mes parents, ma famille.
Ça doit être énorme, alors, parce que je ne supporte pas les tatouages.
On s'est tout dit, je vais rentrer.
Ok, on va ça.
S'il n'y avait que des candidats comme Alain, la saison de L'Amour est dans le pré, ça durerait un quart d'heure. Mais il faut le comprendre, hein, il nous l'explique.
Moi, les tatouages, c'est rébiditoire pour moi.
Ouais, c'est rébiditoire, ça empêche la gibulation. En même temps, il faut reconnaître qu'Alain était très clair sur ce qu'il attendait de cette émission.
T'es porté sur le sexe, tu l'as dit ?
Oui.
Tu te vois vivre jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à tant que je peux faire l'amour.
Ah, et sinon ?
Ah bah après, faut couper tout.
Mais tu veux faire l'amour tous les jours ?
Bah j'aimerais bien, ouais.
Ah bah tu m'étonnes qu'il arrive au bilan tout seul lui, hein ? Alain c'est une baraque à frites. Et là il va faire tapis, il s'est dit c'est la dernière émission, j'ai plus rien à perdre, c'est peut-être jouable avec Karine Lemarchand.
La vie, tu vois, regarde, on est tous les deux, on discute, hein ?
Oui.
Ça coule.
Ah oui, mais on couchera pas ensemble, je te dis.
Ah bah non, mais je connais mes limites, toi aussi.
Et moi aussi.
Bon bah voilà.
Ça s'appelle un gros stop. Hein ? Dans cette émission bilan, on retrouve aussi tous nos agriculteurs à Montmartre, et notamment notre chouchou Thierry Coquin de Sort, qui découvrait les pâtisseries de la capitale et surtout leurs prix.
Coquin de Sort, 4 euros la meringue, il s'emmerde pas chez nous, et 4 euros, t'en as un chemin au mois.
Ah bah, bienvenue à Paris. Je pense que quand il va voir le prix du café, il va faire une descente d'organes. Et enfin, on avait Alexandre, qui présentait sa chérie à Karine Lemarchand. Et là, vous allez voir, grâce à l'émission de la semaine dernière, on a évité un nouveau drame.
Et Jeanne Bretonne.
Jeanne Bretonne, voilà.
De quel âge ?
De 27 ans, bientôt 28 en fin d'année.
Ah, tu connais déjà sa date d'anniversaire ?
Non, oui. Mois d'octobre, ouais. 21.
Ah, c'est bien.
Tu sens que le mec marche sur des œufs. Hein. Je vous rappelle qu'on avait failli avoir une séparation la semaine dernière à cause d'une date d'anniversaire non connue. Tu sens que ce coup-ci, tout le monde a bossé le dossier pour éviter le piège. Du coup, j'imagine que vous avez bossé, Philippe.
Oui.
Hein ? Parce que la semaine dernière, vous m'avez fait beaucoup de peine. On réécoute. Et vous connaissez ma date d'anniversaire ?
Oh, le salopard.
Mais non ! Il me prend à brûle pour point.
Vous connaissez pas ?
Non.
Alors peut-être que je me suis emballé la semaine dernière, peut-être que je suis trop sensible et que c'est pas bien de vous prendre à brûle pour point, comme vous dites. Alors Philippe, avec une semaine de plus, est-ce que vous pouvez me donner ma date d'anniversaire ?
Mais non, j'ai même pas regardé !
J'en étais sûr, vous me ferez plus.
Ah non, Jean-Luc revient. Jean-Luc revient en thème. Jean-Luc Lemoine. Il quitte vraiment le studio. Il s'est vraiment barré. Je suis obligé de réviser pour demain. Culture Média continue. Stéphanie Loire, c'est quand votre anniversaire?
Le 13 octobre.
Non, je prends aucun risque. C'est passé donc. Oui.
Passé.
Sébastien Bordenave, c'est quand?
C'est bientôt.
C'est quand?
Dimanche, pas là mais l'autre.
D'accord, ouais. Tant mieux, comme ça on n'aura pas à le fêter à l'antenne. Votre indispensable ce matin, Sébastien.
Vous en avez marre que votre ado collectionne les mangas dans sa chambre, il y en a partout, ça prend de la place et de la poussière. Et bien ça sera bientôt fini grâce au Webtoon. C'est quoi un Webtoon?
C'est quoi?
Je vous dis tout à l'heure.
Stéphanie, on parle musique.
Oui, je vous présente Loose and the Yakuza, son dernier album. Je vous fais une découverte qui s'appelle Warhouse et un top 3 des meilleurs batteurs de tous les temps.
Je pleure déjà, Jean-Luc Lemoine. Dans un instant, la comédienne Anna Girardot, la réalisatrice Anissa Bonnefond, on parle de ce film très très attendu, La Maison. Mais d'abord, musique avec Aurélie Saada sur Europe 1, Abracadabra.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Anna Girardot.
Bonjour Philippe.
Comédienne, j'ai cité les films Clo-Clo, 5e 7, Ce qui nous lie, les séries Les Revenants, Totem, La Flamme, Le Dernier Ogre d'Arnaud Malherbe, c'était en avril où vous étiez venu nous en parler. Et vous êtes à l'affiche du film qui fait le plus parler en ce moment, La Maison, tiré du roman d'Emma Becker, dans lequel elle raconte ses 2 ans et demi passés dans une maison close de Berlin comme prostituée. Et c'est son choix, c'est très important. Roman très libre et sulfureux. Le film est tout autant. Sa réalisatrice va nous rejoindre, c'est Anissa Bonnefond. Avant qu'on parle du film, vous aviez un point commun toutes les deux sans vous connaître. Anna Girardot, vous aviez lu le roman La Maison et vous dites avoir été très touchée, vous l'avez lu bien avant de savoir qu'on allait vous proposer le rôle.
Bien sûr, je l'avais lu parce que j'avais entendu parler d'Emma Becker et qu'elle m'intriguait. Donc j'avais acheté le livre, je l'avais trouvé formidable. Je ne m'attendais pas du tout à interpréter son rôle un jour.
Vous avez dit « gros choc pour moi ». Quel fut ce choc?
Le choc de ces mots, de la vérité, de l'honnêteté, de la sincérité, de cette femme qui tout d'un coup dévoile une grande partie de sa démarche, de son intimité, avec beaucoup d'assurance et avec quelque chose de très vrai.
D'un mot, pour qui n'a pas lu le livre, vous pouvez dire ce qui lui arrive. Qui est Emma? Qu'est-ce qu'elle fait à Berlin?
Emma Becker est donc autrice, elle écrit donc son second roman et le sujet de la sexualité est quelque chose qui la touche beaucoup et elle décide d'intégrer une maison close à Berlin, de devenir prostituée pour écrire sur ce monde qu'elle a tellement fantasmé et de le vivre pour le mettre, pour parler de ses femmes, pour parler des femmes, du corps, du sexe.
Voilà. Le sujet c'est la sexualité ou la prostitution? J'en parle parce qu'il y avait déjà eu une polémique au moment où le livre était sorti il y a 3 ans en disant que la prostitution n'a rien à voir avec la sexualité, en ce sens que rien à voir avec le plaisir quand on est la fille.
En tout cas, elle parle de sa démarche en fait de femme, d'aller finalement décider de ce qu'elle va faire avec son corps, avec son sexe, avec les clients qu'elle va rencontrer. Et elle veut parler de tout ça, elle veut parler d'un monde qu'elle ne connaît pas.
Vous êtes arrivé. J'étais en train de poser une question en régie. J'étais en train de demander combien de temps dure la bande-annonce et quoi. On va la passer, comme ça on va bien voir combien de temps elle dure. Allons-y.
J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie. Mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre? Ou mon livre n'était qu'un prétexte?
Est-ce qu'elle prend du plaisir à faire ce métier dans le film, comme Emma Becker prend du plaisir dans le livre, pour le dire, dans le roman, il y a des orgasmes, mais on ne dit pas dans un film « Ah, j'ai eu un orgasme !»
À partir du moment où en fait, elle fait cette démarche et qu'elle décide en fait, de ce qu'elle va faire de son corps, elle prend un plaisir immense à retrouver son pouvoir de femme. Là, elle en prend du plaisir et on en prend aussi dans le film parce qu'on y voit en fait, toute la puissance féminine d'Emma ainsi que toutes les femmes qui l'entourent, qui sont interprétées par Rossi de Palma, Horatica et un casting formidable.
C'est en même temps une ode à la sororité.
Complètement. C'est une ode à la sororité, c'est une ode à la féminité, c'est un film humaniste et féministe.
Et c'est un film très, très joyeux et solaire. Ça n'a strictement rien à voir, mais on me dit à la route du Rhum. Axel May, vous êtes là ?
Ça n'a rien à
oui.
voir.
C'est ça le principe, c'est ça l'actu, il est 10h17. L'arrivée alors, où est-ce qu'on en est Axel ?
Priorité au direct, Anissa Bonnefond va faire son entrée.
À l'instant, vous m'entendez bien ?
Bien sûr.
À l'instant, mon cher Philippe, la victoire de Charles Caudrelier. Là, je suis sur un petit bateau dans la mer des Caraïbes. Alors, il fait encore nuit ici, hein, puisqu'il est 5h18 du matin. Vous entendez peut-être derrière moi des sifflets, des applaudissements. Il y a des sirènes, parce qu'il y a plein d'autres bateaux qui accompagnent ce maxi-trimaran, hein, ce trimaran géant de Charles Caudrelier, qui vient donc de franchir cette ligne d'arrivée virtuelle au large du Gosier, hein, l'une des villes de Guadeloupe. Ensuite, il va aller au mouillage. Ça va prendre une petite heure au mouillage à Pointe-à-Pitre. On l'a aperçu là sur son bateau, saluer son équipe qui est montée à bord. Il aura donc mis moins de 7 jours, hein, si je ne m'abuse, pour traverser l'Atlantique et donc battre le record qui était détenu depuis 4 ans par Francis Joyon. Quant à François Gabart, dont on a suivi beaucoup les aventures sur Europe 1 tous les jours, il nous envoyait des petites pastilles sonores. Eh bien, il est encore en train de contourner la Guadeloupe et terminera deuxième de cette route du Rhum sur son ultime. Hein, c'est ces bateaux qui sont capables de voler lorsqu'ils sont en pleine mer. Là, évidemment, on est à l'arrêt pour Charles Caudrelier et il va donc pouvoir bientôt regagner la terre. Et rendez-vous compte, Philippe, à 48 ans, pour sa première participation, il gagne la route du Rhum.
Merci beaucoup Axel May. Et deux arrivées en même temps, donc Charles Caudrelier qui remporte la route du Rhum et Anissa Bonnefond qui vient d'entrer dans ce studio. Culture Média marque une pause, il est 10h19, à tout de suite, on reprend notre souffle.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie d'Anna Girardot qui incarne Emma dans ce film La Maison, film réalisé par Anissa Bonnefond qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. J'ai une question pour vous d'abord. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce livre ? Vous venez du documentaire.
Oui.
Pourquoi passer à la fiction et avec une histoire aussi sulfureuse ? Je la rappelle parce que au début du générique, il y a écrit tiré d'une histoire vraie.
Ouais.
Pourquoi l'histoire d'Emma Becker, qui a travaillé pendant 2 ans et demi dans une maison close à Berlin, vous a intéressé au point d'en faire un film ?
J'ai été fascinée par l'audace d'Emma Becker, par sa liberté. Pour moi, notre film, c'est une ode à la liberté du choix de la femme, du choix d'être réellement qui l'on a envie d'être, qu'une jeune femme assume pleinement son désir, que ce soit un désir physique ou intellectuel, puisqu'elle est partie dans ce bordel aussi pour en écrire un livre, et qu'elle l'assume à ce point-là. Moi, ça me parle. J'avais envie de parler d'une femme forte comme ça, essayer peut-être d'abaisser les jugements autour de la femme, du désir de la femme, et puis aussi de la prostitution en France, qui est quand même un sacré tabou. Donc voilà, j'ai eu envie de faire ça. J'adore aussi l'ambiguïté de ce personnage, puisqu'elle...
Alors ça allait être ma question,
ah ben voilà.
Parce que je me suis dit, comment avez-vous abordé le personnage d'Emma ? Je pourrais aussi poser la question à Anna Girardot. Pendant tout le livre, on se posait la question. Pendant le film, que j'ai vu, c'est la sœur d'Emma, Madeleine, qui lui pose la question. Est-ce qu'elle va se prostituer pendant 2 ans et demi pour prendre du plaisir ? Parce qu'on sent en creux qu'elle est un peu obsédée sexuelle. Et ça va lui servir de prétexte à écrire un livre. Ou est-ce qu'elle n'a aucune autre idée de livre et elle se force sur ce thème, comme elle aurait pu travailler à la mine pendant 2 ans et demi. Comment avez-vous abordé Emma ?
Alors à la mine, je ne pense pas. Je pense que vraiment, en fait, je trouve ça, ce qui m'intéressait chez ce personnage, c'est justement cette ambiguïté-là. Est-ce que réellement, elle est allée au bordel pour écrire son livre ? Ou est-ce qu'au contraire, le bouquin, son livre, l'écriture de son livre, de son roman, était un prétexte pour pouvoir vivre pleinement ce désir qui l'obsédait depuis son adolescence, puisqu'elle raconte en fait qu'elle a toujours fantasmé l'univers des maisons closes et des bordels quand elle a découvert le Marquis de Sade.
Et vous-même, comment vous l'avez vécu, Anna Girardot, plutôt, comment vous l'avez joué, cette Emma ?
C'est un personnage ambigu et c'est ça qui est tellement enrichissant pour une comédienne d'aborder un personnage comme ça qui est pluriel parce que justement les femmes on est plein de choses finalement donc dans ce personnage il y avait en tout cas en effet comme l'avait dit Anissa une audace une envie intellectuelle et en même temps une curiosité et une envie pleine d'aller découvrir son désir et son plaisir.
Emma a un meilleur ami, il s'appelle Stéphane, il est écrivain, lui aussi joué par Yannick Régnier. C'est votre meilleur ami, mais ami, le mot est à prendre au sens très large, puisque vous couchez de temps en temps avec lui, lui il est marié, vous confiez à lui parce que c'est un homme à qui vous pouvez tout dire. Grande confiance entre vous deux, et il semble s'inquiéter beaucoup pour vous, pour le personnage d'Emma.
Il y a quand même une différence entre aimer, baiser et devenir pute, non ? Comment veux-tu que je sois pas inquiet ?
Bah je sais pas, t'es écrivain, tu peux comprendre, non ?
Non mais écrivain c'est pas journaliste. Écrire C'est pas raconter. Écrire, c'est inventer.
Oui, bah on peut débattre de ça longuement. Non, mais la plupart des clients que j'ai eus étaient vraiment du genre normaux, tu vois. Un peu chaud, petite alliance, et ils baisaient complètement normalement.
Non, écoute, je suis pas sûr que j'ai envie que tu me racontes.
Non, mais à quoi ça sert de tromper ta femme si c'est pour baiser un missionnaire? Toi, par exemple, quand tu trompes ta femme avec moi, bah, c'est joyeux.
Ah, ok, bah je suis sûr, je veux pas que tu me racontes.
Allez, y a que toi qui peux comprendre. Non, tu vois, j'ai eu un client que j'ai trouvé très charmant. C'est bizarre, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir un client beau.
Tu les préfères tout moche? Mère Teresa, carrément, mieux en mieux.
Non, mais vraiment, j'ai eu envie de lui plaire, ça m'a troublée. Je me suis confiée à lui, j'ai merdé, j'ai même raconté que j'écrivais un livre.
Bah tu vois, tu crois toujours en l'amour.
T'es con.
Rien qu'en moins d'une minute, ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. J'en ai nombré 4 ou 5 ou 6. C'est des problématiques qu'on ne voit pas dans le cinéma français et qu'on ne voyait pas dans le cinéma d'hommes.
Ah voilà, bah c'est chouette que vous releviez ça. C'est vrai que là, c'est un film, alors c'est étrange que je dise ça de mon film, mais c'est un film autour du désir de la femme, sur le désir de la femme, la sexualité de la femme, vue à travers le regard d'une femme. Et c'est vrai qu'au cinéma, on n'a pas l'habitude de ça, c'est toujours les hommes, enfin, c'est avec le regard, sous le regard d'un homme qu'on parle du désir de la femme.
On va aussi parler de musique. Culture Média continue. Il est question de musique dans la maison. Il y a une chanson que j'ai adorée, j'en dis pas plus. Culture Média continue. Stéphanie Loire arrive, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Anna Girardot qui incarne Emma. C'est le film La Maison qui sort aujourd'hui. Film signé Anissa Bonnefond. C'est sa première fiction. Ça se passe à Berlin, il se passe toutes sortes de choses. Parfois, elle va en boîte de nuit pour arriver à s'extraire de ce qui se passe au bordel, au sens propre du terme, parce que c'est une maison close. Et puis, il y a une scène très, très forte. Elle est en boîte de nuit, on entend la musique techno qui boum, 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 boum. Et tout d'un coup, la musique glisse et on entend ceci.
La nuit, je m'en vais. Je mens quand je crie. J'écris sans regret. La dernière nuit.
Alors j'avoue, je ne connaissais pas du tout cet artiste. J'ai chasamé, elle s'appelle Laura Cahen. Le titre s'appelle Nuit Forêt. Anissa Bonnefond, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans le film? Comment vous l'avez découverte?
Alors j'ai découvert tout à fait par hasard. Et j'ai été très touchée par cette chanson. Et en fait, c'est en écoutant cette chanson de Laura Cahen, et on va se rencontrer d'ailleurs, c'est prévu parce qu'on ne se connaît pas, que j'ai eu l'idée de la scène comme ça. Je me suis dit, c'est une scène où les deux sœurs se retrouvent. Finalement, c'est une scène qui doit être intime. Et donc, j'ai eu très envie de rentrer dans leurs sensations, dans leur corps. On voit leur corps en gros plan. On est en slow motion dans cette scène. Il y a une douceur qui s'installe. J'ai trouvé les paroles aussi extrêmement belles quand elle dit « La nuit, je m'en vais. Je mens quand je crie ». Pour moi, c'était extraordinaire cette phrase par rapport à mon personnage principal, bah, qui ment quand elle crie au bordel toute la journée et que c'est sa dernière nuit. Enfin, il y a quelques, voilà, je me suis dit que cette chanson m'a habité, m'a transporté. J'ai eu très envie de la mettre dans mon film.
Laura Cahen, le titre s'appelle Nuit Forêt. On va continuer à parler de musique avec vous, Stéphanie Loire. Rebonjour.
Bonjour à tous. Bonjour Anna. Alors, bonjour Anissa.
Alors
bonjour
Stéphanie Loire, c'est votre sélection du jour. Pour commencer, une autrice, compositrice, interprète, on la connaît. Elle s'appelle, on dirait que c'est un pseudo, Luz and the Yakuza.
Oui, Luz and the Yakuza. Elle a le vent en poupe, hein, les médias s'affolent autour de cette artiste. Elle a fait la une du Vogue France en octobre dernier. Elle parcourt les scènes de France et de Belgique. Elle a assuré la première partie de Gorillaz sur scène. En 2020, elle publie un premier album, sublime, sombre, intitulé Gore, dans lequel elle traite de prostitution, de racisme et de viol. Cette fois, l'artiste, je pointe du doigt Anissa. Oui.
Je veux dire quelque chose, parce que grâce à cet album, moi, j'aurais adoré qu'elle joue dans mon film.
Voilà.
Voilà, donc... Et puis bon, bah, ça n'a pas marché parce que tout ne marche pas, hein, dans la vie. Puis après, on avance, mais donc c'est génial que t'en parles ce matin.
Des idées chez vous. Elle publie un nouvel album, Luz and the Yakuza, qui s'appelle Yota, et beaucoup plus lumineux que le premier. Parmi les titres, il y a Takata. Et Takata, c'est une onomatopée qui sonne comme la cadence reggaeton. Écoutez. Une tonalité fiévreuse que vous entendez, qui a été ajoutée par le compositeur-réalisateur El Guincho, complice de la pop star espagnole Rosalía.
Autre actualité, une autre, et j'adore ce Takata. Autre découverte musicale, Warhouse.
Warhouse, encore un Belge, c'est le nom du projet solo du compositeur, chanteur, multi-instrumentiste Martin De Volder, qui œuvre au sein d'une formation qui s'appelle Balthazar. L'album s'appelle A.A. Heartbreak. Il est né dans une chambre d'hôtel à Palerme, dans le tourment d'une rupture amoureuse vécue par l'artiste. On en a tous vécu une. On sait ce qu'on sait comme ça fait mal. Écoutez la magie qui opère quand on transforme une blessure en musique suave. C'est bien ou pas hein?
J'aime bien ça.
J'adore. J'aime
ouais, il y a un petit côté radiohead, je trouve.
Je trouve qu'il a le, moi, je trouve qu'il a le spleen sensuel, et c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on peut souvent avoir le spleen pathétique et moins souvent sensuel. Filou,
oui.
T'es là.
Enfin, le magazine Rolling Stone a établi le classement des 100 meilleurs batteurs de tous les temps. Vous nous présentez le top 3.
Ouais, ce classement il a retenu mon attention parce que j'avoue que j'ai une tendresse particulière pour les batteurs, ces faux bourrins, vrais sensibles, qui viennent battre la mesure de notre cœur et de notre corps d'ailleurs. Le numéro 3 des meilleurs batteurs de tous les temps, c'est
Ginger Baker. Je l'ai lu parce que c'était sur l'affiche.
C'est un Britannique qui est connu pour sa participation au supergroupe Cream, le trio qu'il forme de 1966 à 1968 avec Jake Bruce et Eric Clapton. Écoutez-le caresser sa batterie en live sur les titres Crossroads.
Ça lie un petit peu le son, mais Cream, c'était le premier super groupe.
Ouais.
Où il y avait un super guitariste, un super bassiste, un super batteur. On venait les voir pour voir le numéro de ces trois-là ensemble. À la deuxième place...
Le choc des titans.
Un type que j'adore.
À la deuxième place, Keith Moon. Encore un anglais. Son surnom, c'est Moon the Loon. Et ça signifie Moon le taré. Il est connu pour avoir été le batteur emblématique du groupe anglais The Who. Mais il est célèbre évidemment pour son talent de musicien, mais aussi pour ses frasques. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il casse des instruments pendant les concerts. Il saccage ses chambres d'hôtel. Il prend beaucoup de drogue.
Ouais.
En 1973, écoutez, l'histoire est folle, il s'effondre en plein concert après avoir pris du tranquillisant pour chevaux. Il est remplacé, le groupe panique, il est remplacé par un jeune spectateur qui a 19 ans, qui se trouve dans le public, amateur de batterie. Il s'appelle Scott Alpin, il va le remplacer pour le concert des Who. Ce sera les minutes les plus folles de sa vie. Il va les raconter jusqu'à la fin de ses jours en 2008. Mais en revanche, quand Keith Moon était en forme, il faisait honneur à son statut du plus grand batteur du monde. Littéralement explosif. D'ailleurs, sa cascade préférée à Keith Moon, c'était de jeter des explosifs dans les toilettes des hôtels.
Ouais.
Un tour qu'il a fait jusqu'en 1978, date à laquelle il est mort d'une overdose à 31 ans.
Et vous savez à qui il a servi de modèle? Au batteur du Muppet Show.
C'est vrai?
Le batteur du Muppet Show, c'est Keith Moon. Et puis enfin, le numéro 1 de ce top 3, c'est aussi mon batteur préféré. Je suis ravi, je vous laisse le dire.
Je suis content de vous faire plaisir, Philippe John Bonham, celui qui...
Vous savez qui c'est ou pas? Les filles?
Non.
Attention, de Led
Zeppelin.
Le batteur de Led Zeppelin, maintenant tout le monde sait qui c'est.
Bah, on l'écoute sur le premier album de Led Zeppelin, fondateur.
Oh là là, il a fait tellement de progrès. Moi, j'aurais mis l'intro de rock'n'roll. Vous m'auriez appelé, je l'aurais dit, avec l'intro de rock'n'roll.
Mais
voilà, c'est ça.
Dommage.
Dommage, vraiment dommage. Vivement que j'ai une émission à moi. Merci beaucoup Stéphanie Loire. On continue de parler de la maison. On est avec Anna Girardeau, Anissa Bonnefond. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Anissa Bonnefond, qui réalise son premier film de fiction. Ça s'appelle La Maison, incarné par Anna Girardeau. Mais pas seulement, mais je cite Anna Girardeau parce qu'elle est dans ce studio. On en est ravis. Anissa Bonnefond, on va parler de bande dessinée avec Sébastien Bornella. Vous êtes fan?
J'adore. J'adore la BD.
Ah oui?
Ouais, vraiment, je partage ça avec mon amoureux. C'est quelque chose qu'on adore. Et mon prochain film, c'est l'adaptation d'une BD. Donc,
Quelle BD?
Une nuit à Rome de Jim, qui a, il n'y a pas si longtemps, cet été, publié sa dernière BD qui s'appelait L'étreinte. Voilà.
Très bon choix.
Merci. Très bon choix. Dit Sébastien Bordenave. Vous nous parlez d'une bande dessinée qui s'appelle Let's Play, qui a été publiée par une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle elle-même Kotoun, avec un K et deux O. Maison d'édition qui, m'avez-vous dit, a une particularité.
Oui, la BD Let's Play vient de sortir, je l'ai lue, et pour la décrire, je suis allé voir ce qu'en disait un site spécialisé dans les mangas. Il était écrit que c'était, je cite, un webcomic de type manhwa shonen qui a cartonné sur Webtoon.
Ouais, on a
alors,
rien compris.
Peut-être qu'il est possible que vous n'ayez pas tout compris.
Rien.
Donc je suis sympa, explication de texte.
Merci.
Un manhwa, c'est un manga, mais en Corée. Un manga, c'est une BD japonaise. Un mangaka, c'est un dessinateur japonais. Un manhwaga, c'est un dessinateur coréen.
Bravo.
Le manga japonais se lit de droite vers la gauche, alors que le manhwa, c'est comme chez nous, de gauche vers la droite. Un shonen, c'est un manga plutôt pour les ados, plutôt pour les garçons. J'ai lu la BD Let's Play sortie chez Kotoun et franchement, c'est pour tout le monde. Manga ou manhwa, la question ne se pose même pas vu que c'est dessiné par une américaine. Pourquoi j'en parle de cette BD ? Eh bien, parce qu'elle a d'abord cartonné en tant que webtoon. Qu'est-ce que c'est qu'un webtoon ? Oh génial, un nouveau mot, j'explique. Un webtoon, c'est une BD numérique. Ça a été inventé par les Coréens au début des années 2000. Numérique, ça veut dire qu'elle n'existe pas sur papier. On ne peut la lire que sur son téléphone ou que sur sa tablette. Et une BD webtoon, ça fonctionne comme une série. Il y a des épisodes et parfois, quand vous en avez terminé un, l'épisode suivant, il n'est pas encore disponible, donc il faut l'attendre. Dans les webtoons, c'est comme dans les séries, il y a des cliffhangers, des moments dans le récit où on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Bref, les webtoons, ça rend dingue les ados comme Game of Thrones a pu rendre dingue les adultes. Et maintenant qu'on sait ce que c'est, c'est comme tout, faut goûter. Comment on fait pour lire un webtoon ? Explication avec Flora Salo, éditrice chez Kotoun.
Il existe des plateformes, donc des applications. Il y a Dailytoon qui est historiquement une application qui a été inventée par un Français, Didier Borg. On a l'application Webtoon et on a les nouveaux, donc Picoma. Donc ce sont des applications qu'on télécharge gratuitement sur son téléphone ou sur sa tablette. On se crée un compte pour mémoriser nos lectures et un épisode est gratuit. Et il y a un épisode qui sort par semaine. Mais par contre, si vous voulez lire les épisodes qui vont sortir dans la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines, là, on peut payer.
Alors, on peut payer, mais en coins, une monnaie virtuelle. Vous savez, comme au Club Med, quand on payait les boissons avec le collier de perles.
Toutes les 20 secondes, on apprend quelque chose avec vous.
Les coins, on les achète avec des vrais sous. Du coup, ça anesthésie un peu l'achat. Si on est accro à une série, on va acheter tous les épisodes plein pot. Let's Play, ils en sont quand même à 177 épisodes sur Webtoon, je crois. L'avantage, par contre, c'est que si une série ne vous plaît plus, vous arrêtez de la lire, donc vous arrêtez de payer. L'intérêt du numérique, c'est que ça marche comme Netflix. On vous propose du coup des mangas en rapport avec vos goûts. Et comme c'est sur votre téléphone, on vous propose aussi des musiques d'ambiance à écouter en lisant votre manga. Ouais. Et les dessinateurs laissent des petits mots sur l'application. Les fans peuvent discuter entre eux. Bref, c'est une toute nouvelle façon de consommer la BD.
Mais alors, je reviens au sujet initial. On a compris le principe de la BD. On la lit exclusivement sur une tablette ou sur un smartphone. Je vais y arriver à le dire. Smartphone, un portable. Mais alors, quel est l'intérêt de créer une maison d'édition qui va sortir en papier les meilleurs webtoons ?
Déjà, n'est publié sur papier que les BD qui ont vraiment cartonné en webtoon. En fait, les Américains ont été les premiers à tester l'édition papier des succès webtoon. Et ça marche. En France, ça marche encore plus parce qu'on aime le livre, l'objet. Et en plus, quand on sort un manga en papier, on rajoute des bonus, des interviews exclusives, des petits stickers. C'est le pari de Kotoun. Donc, ils sortent Let's Play, l'histoire d'une femme créatrice de jeux vidéo qui se fait démolir sur les jeux, se démolir sur les réseaux sociaux par un influenceur, star beau gosse, qui se trouve être son nouveau voisin. Ça vise un public plutôt jeune adulte, mais la maison Kotoun n'a pas l'intention de se restreindre à un genre en particulier.
La ligne édito de Kotoun, pour l'instant, c'est, pour nous, notre principe, c'est le webtoon est international. Les Coréens ont inventé la forme du webtoon, donc le format, mais le contenu, au final, est international. Et on a d'autres titres qui vont arriver avec des auteurs américains, hispanophones. On est très ouvert à essayer de faire du thriller, de la romance, de la fantasy. Non, au contraire, les genres pour nous sont très ouverts. On ne va pas se délimiter à un genre. Et voilà.
Merci à Flora Salo, éditrice de la maison Kotoun. Lisez des webtoons, lisez Let's Play en format papier publié chez Kotoun. Je vous l'offre parce que j'ai l'impression que ça va faire plaisir à la maison.
Merci, à toute la maison.
Toute la maison.
Voilà. Merci beaucoup.
C'est le genre dont vous pouvez être cliente ou Anna ou vous, Anissa.
Ah oui, clairement. Mais moi, ma fille est fan de webtoons. Donc elle lit sur sa tablette. Et puis là, j'ai l'impression de retrouver Nicky Larson, dont j'étais amoureuse quand j'avais 12 ans. Donc merci.
Elle a quel âge votre fille ?
12 ans.
Je connaissais les chaussures orthopées, je viens d'apprendre la ligne édito. Merci beaucoup Sébastien Bordenave, c'est la dernière ligne droite de Culture Média. On est avec Anna Girardot, Anissa Bonnefond, si j'ose dire. Elles sont dans la maison c'est Europe 1, hein, tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Anna Girardeau, qui incarne la maison, qui incarne plutôt Emma, cette pensionnaire de la maison prostituée pendant 2 ans et demi dans une maison close de Berlin. Film est réalisé par Anissa Bonnefond. Elles sont toutes les deux dans ce studio. On est mercredi.
Oui.
Le mercredi, il y a la séance du matin-matin.
Oui.
Et vous connaissez le chiffre, vous avez un grand sourire.
Oui, je suis contente parce que notre attaché de presse vient de nous dire qu'au Halle, à Paris, on a fait 22 entrées à 9h du matin, que les films en général c'est entre 10 et 30 entrées, donc on est très très joyeuse parce que surtout ce film interdit aux moins de 16 ans, qui a eu un public à 9h du matin avec son café, moi ça me rend très heureuse.
C'est rare, assez rare pour être signalé dans le cinéma français, film interdit aux moins de 16 ans. Anissa Bonnefond, vous avez le choix de ne rien édulcorer.
Oui. Moi, je voulais pas édulcorer, je voulais pas édulcorer ce monde, je voulais pas édulcorer la sexualité non plus, même si elle n'est jamais, je trouve, vulgaire, puisqu'elle est toujours narrative, elle fait avancer notre récit, elle fait avancer le personnage principal. En revanche, il était hors de question de faire semblant, donc on a des femmes nues, des hommes nus, et on montre ce monde... avec un regard, je l'espère, juste.
Et vous avez également refusé Anissa Bonnefond un artifice qui se fait parfois dans le cinéma, jouer avec doublure pour les scènes de sexe, c'est-à-dire en fait le sexe ou les seins de la comédienne sont ceux d'une autre. Pourquoi pas ici ?
Parce que justement, vu que ces scènes étaient narratives, ces scènes ont plein d'émotions. Et avec Anna, on a vraiment eu envie de les travailler ensemble comme des scènes normales par rapport à son jeu de comédienne. Donc il était impensable d'avoir une doublure.
Question à vous, Anna Girardeau, comment vous avez appréhendé ces scènes de nu ?
Justement parce que Anissa et moi, on les a travaillées en amont, que c'était le point de vue d'une réalisatrice sur ces scènes-là. Je me suis sentie complètement en confiance parce qu'elle raconte toute quelque chose, que j'ai travaillé avec des partenaires formidables, que l'équipe avec qui on a tourné était super bienveillante et que je n'étais pas du tout gênée, je ne m'étais jamais mal à l'aise. Et donc, au contraire, elles m'ont donné beaucoup de puissance et de plaisir.
Si je suis bien informée, vous avez quand même demandé votre avis, leur avis à vos parents.
Je leur ai pas demandé leur avis. Je leur ai expliqué que j'allais faire un film un petit peu différent des autres.
Et votre papa, on le connaît bien ici, c'est Hippolyte Girardeau. Il paraît que vous avez fait promettre à votre père de ne jamais aller voir le film. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que c'est du storytelling parce que c'est une histoire formidable de faire promettre à son père de ne jamais aller voir un film, lui-même étant comédien.
Vous savez, mon père, il a plus de 16 ans, donc il fait ce qu'il veut. Après, il y a des risques qu'il s'étouffe avec son pop-corn, ça c'est sûr.
Il y a aussi des scènes d'humour en parlant de ça.
Oui.
Comment vous avez travaillé par rapport au livre ? Vous avez pris une grande liberté, vous êtes resté dans les clous. Il y a une scène très drôle, je ne me souviens plus si elle est dans le livre. Il y a une scène avec Philippe Rebaud.
Oui,
il nous a raconté ici, il nous dit « je vais jouer dans la maison ». Je connaissais rien du film, je vous fais de quoi ? Il me dit « je prends une leçon de cunnilingus
». C'est ça.
Déjà, ouais. J'ai pas pu enchaîner. Et dans cette scène, il joue le rôle d'un client un peu perdu. En gros, il joue le rôle de Philippe Rebaud, qui sait pas comment s'y prendre. Vous lui donnez cette leçon et vous lui dites « c'est pas du coloriage, c'est pas grave si ça déborde un peu ». Ouais, déjà, c'est... faut oser. Et est-ce que c'était dans le roman ?
Alors, cette scène, est vraiment, ce personnage, évidemment, était dans le roman. Moi, je l'ai adoré quand je l'ai lu, parce que pour moi, elle était tellement pleine d'humanité. Et c'était extrêmement important d'amener de l'humanité dans cette histoire. Et donc, de dépeindre plein d'hommes différents. Des hommes qui viennent au bordel et qui viennent voir ces femmes pour des raisons toutes extrêmement diverses et variées. Et cette scène-là, je dois dire que c'est quand même, je pense, peut-être une de mes scènes favorites, parce qu'elle est extrêmement drôle, mais surtout extrêmement touchante, et que les deux, que ce soit Philippe et Anna ensemble, c'est juste un bonheur.
Alors, sur l'écran, il est écrit d'après une histoire vraie, mais il y a des choses que vous avez inventées. Par exemple, l'histoire d'amour, elle est inventée.
Oui.
Ou le personnage de la sœur, Madeleine, vous l'avez inventée.
Oui.
C'est un peu la conscience, la bonne conscience peut-être d'Emma et la conscience du spectateur.
Du spectateur. En fait, oui, j'ai eu besoin, moi, à un moment, de m'éloigner de ce désir, de ce besoin de plaire à Emma Becker et de m'approprier, en fait, son histoire. Donc, je suis restée très honnête quant à son récit, quant à ce qu'elle a vécu, quant à son chemin. Par contre, pour faire un film, il y a besoin d'une structure. Et il y avait besoin aussi d'un antagoniste. Il y avait besoin qu'il y ait ce regard de la petite sœur sur la grande qui nous permettait à nous, spectateurs, de rentrer dans cette aventure quand même extraordinaire.
Ouais.
C'était pas évident, je veux dire, pour un spectateur, de comprendre, de suivre cette démarche. Donc j'ai eu envie et besoin d'ajouter ce personnage de la petite sœur, besoin d'humaniser aussi le personnage avec cette histoire d'amour. Grâce à cette histoire d'amour, on se rapproche d'elle et l'amoureux est interprété par le merveilleux Lucas Englander. Donc oui, je me suis pris des libertés.
Quand le roman est sorti, c'était il y a 3 ans, il y a une grosse polémique. On a reproché... Alors, d'abord, il y a un immense flot de compliments. Mmh. Et il y a eu une petite musique, qui était même une grosse musique grinçante. Mmh. On reprochait à Emma Becker d'avoir magnifié la prostitution, d'en avoir fait un objet esthétique, d'en avoir fait un objet de désir. Vous attendez à ce genre de critiques, de polémiques?
Vous savez, quand on parle, quand on traite d'un sujet aussi clivant et aussi compliqué qu'est la prostitution chez nous en France, ce n'est pas le cas de beaucoup de pays voisins.
Je vous interromps. Ouais. Quand vous faites un film qui raconte l'horreur de la prostitution, il n'y a aucune polémique.
Ah, bien
100%
sûr.
Des gens sont
en
d'accord
fait,
avec vous.
Vous savez quoi, le
c'est
problème,
dès qu'on sort du politiquement correct qu'il y a une polémique. C'est pas le sujet
vous
en
avez
soi.
Raison.
C'est le traitement et c'est la vision qui crée la polémique.
Exactement. Mais en fait, c'est que dès qu'une femme en fait, fait un choix, ce choix-là, dans notre société quand même assez... patriarcale, il est difficile d'entendre qu'une femme puisse avoir cette liberté et qu'elle puisse fantasmer de se prostituer. Il est difficile d'entendre, je pousse encore plus loin, puisqu'on a parlé avec des travailleuses du sexe, avec Anna, qu'une femme fasse ce choix comme travail. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de femmes et qui me disent tout simplement, mais est-ce que tout le monde aime aller travailler le matin? Il y a un moment, il faut arrêter de vouloir penser pour nous. On se permet de penser pour les gens. Et ça, c'est un problème. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce film. Essayer de dire, vous savez quoi? Laissons chacun libre de son choix. Voilà, c'est l'idée du film. Et donc, ces femmes font aussi, elles ne le font pas toutes. Évidemment, la prostitution est un cauchemar. Il y a des réseaux. Mais il y a aussi des femmes. Il y a des poches de femmes qui la choisissent. Et elles ont le droit de le faire. Et il faut les entendre aussi.
Ça s'appelle La Maison, ça sort aujourd'hui sur les écrans, déjà 22 entrées à 9h et c'est un signe. C'est un film d'Anissa Bonnefond, c'est votre première fiction, c'est avec Anna Girardeau, film qui nous a beaucoup émus. Merci d'avoir été avec nous.
Merci,
en
Philippe.
Direct, toutes
Merci.
Les deux. Nous on se retrouve demain évidemment à 9h pour Culture Média. On sera avec l'une des figures de la mythique équipe de France championne du monde en 98. Désormais c'est le consultant foot de TF1, Bichente Lizarazu. Évidemment on parle de la Coupe du Monde, ça démarre au Qatar dimanche et eux ils seront dans les stades avec Grégoire Margoton et puis André Manoukian pour son nouvel album très personnel. Pourquoi très personnel? Il s'appelle Anouche. Il rend hommage dans cet album à ses racines arméniennes et surtout à sa grand-mère déportée au lendemain du déclenchement du génocide arménien en avril 1915. Comment ça se joue? Comment ça s'entend en musique? Réponse avec André Manoukian demain. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, l'émission Bien fait pour vous. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Le programme du jour. Quelle énergie, j'adore.
Eh bien justement, on va parler de ça. On va parler de l'élan vital. Que vaudrait une vie sans désir? Voilà, le désir de désirer, tout ça. On va parler de ça dans Bienfait pour vous. Et puis, on va en parler avec en citant évidemment Platon, Spinoza ou même Bouddha, mais surtout avec Frédéric Lenoir, qui sera notre invité, qui est philosophe et sociologue.
Je pensais que vous alliez citer Johnny Hallyday.
L'envie d'avoir
envie. Bien sûr, il en sera question. Et puis, on parlera également du vieillissement de notre visage. Comment comprendre comment notre peau vieillit? Il ne s'agit pas forcément de chirurgie esthétique, hein, mais comprendre comment ça marche, ça permet d'anticiper et puis de prévoir les choses. Et puis on parlera également de lecture jeunesse avec des livres qui initient nos enfants à la notion de pudeur. Donc c'est une notion importante et il y a des mots pour ça.
Vous savez ce que j'adore dans votre émission? C'est le grand écart.
Oui.
Le vieillissement du visage suivi des lectures jeunesse.
Et l'élan vital.
On revient demain à 9h. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut.